Alors bonjour à toutes et tous et bienvenue dans l'émission Les Faramineux. Aujourd'hui, eh bien, pour ceux qui nous ont suivis hier, on avait une conteuse, aujourd'hui nous avons un conteur, voilà. Pour Paul Bradlett avec nous, quand je dis conteur, je devrais dire aussi artiste multidisciplinaire, puisqu'il sera avec nous pour nous parler de son spectacle L'Halloween, à l'Halloween, les contes du caveau qui vont se passer au musée Pointe-à-Calière. Waouh, il va nous faire peur à ce moment-là. Si vous restez avec nous, parce que comme d'habitude, Eva Maizen est avec nous pour nous présenter sa chronique des stupidités. Mais qui dit stupidité dit toujours beaucoup de choses intelligentes que nous apprenons. En tout cas, moi j'apprends, peut-être pour certains d'entre vous, vous le savez déjà, mais c'est toujours très intéressant. Donc dans l'instant, nous partons en musique avec Dans le Shed qui nous chante Naufrage. Et on se retrouve tout de suite avec Paul Bradlett après.
Ici, y a pas de loi sauf celle des tensionnaires. Ici, y a pas de voix sauf celle des battants-guerres. Ici, on prend pour proie des femmes comme ta mère. Ici, c'est pas l'endroit pour devenir ton père. Bientôt, sur un bateau, nous partirons en mer. Nous franchirons les eaux.
Alors voilà, comme promis, eh bien nous avons avec nous le conteur artiste multidisciplinaire Paul Bradlett. Bonjour Paul.
Bonjour, ça va bien ?
Bienvenue dans l'émission. Alors merci. Paul, déjà, il y a quelque chose que j'ai lu, un mot qui vous décrit et que j'aime particulièrement parce que je trouve ça très poétique, un conteur de meute. Eh, c'est beau,
oui.
Ça!
Oui, mais j'ai eu la chance de faire partie de plusieurs meutes, en fait. J'aime ça, j'aime l'idée du partage, en compte.
Ah, c'est bien. Alors, ça, c'est parfait.
Quand on est en groupe, en partant, on partage. Puis, je dois vous avouer que j'aime beaucoup aussi écouter les histoires. Donc, quand je suis avec d'autres conteurs et conteuses, ben, ça me permet d'avoir aussi des moments de compte avec eux, de les entendre.
Ah ben oui, et de faire en sorte d'avoir l'écoute et la participation à un moment de notre vie où on manque particulièrement de liens, Bravo pour ça, quoi. Je trouve ça extraordinaire. Vous dites que votre pratique s'articule autour de la fiction quotidienne. Qu'est-ce que vous, vous entendez par fiction quotidienne?
C'est-à-dire que j'entrevois la limite entre la fiction et la réalité comme étant très ténue. En fait, souvent, il nous arrive quelque chose dans une journée tout à fait quotidienne et on se dit, ça avait juste été un peu plus loin. Qu'est-ce qui serait arrivé? En fait, moi, c'est ce que je me dis. J'ai souvent des faits divers, j'écoute la radio, puis je me dis, ah oui, mais cette personne-là, pourquoi elle a fait ça? C'est donc, qu'est-ce qui aurait pu amener cette personne-là à faire ça? Et j'invente des choses. Je suis un être profondément fictionnel, au grand découragement de ma copine. Mais...
Ah bon, parce que moi, je l'avais pris aussi dans le sens, vous savez, quand on croit à quelque chose, que quelque chose est arrivé, puis c'est pas tout à fait la réalité, c'est une forme de réalité déformée, mais c'est notre réalité à nous, telle qu'on la voit. Alors, je croyais que c'était dans ce sens-là que vous le preniez.
Ben oui, ben, ça se peut que je la déforme aussi, la réalité. C'est donc, vous avez raison là-dessus. Mais souvent, dans des choses qui sont plus dramatiques ou même fatales dans les nouvelles, j'essaie de trouver une petite pointe de lumière ou peut-être de transformer un événement tragique en une fiction qui ferait qu'elle resterait comme un Pierre et le loup moderne puis qu'elle nous apprendrait quelque chose. Ah. C'est que certaines morts ne soient pas inutiles, en fait.
J'aime beaucoup ça, cette idée-là. Comment vous composez vos histoires?
Moi, j'ai des arts visuels. Au départ. Là,
oui.
Donc, j'ai vraiment,
vous avez une formation en art visuel et graphisme, c'est ça?
Oui, exact. Puis j'ai aussi fait un peu d'histoire de l'art. Donc, là, il y a le lien avec l'histoire et l'art que je trouve qui est vraiment intéressant. Mais c'est beaucoup des tableaux, en fait. Je vois ce que je raconte, je le vois. Je suis dans une pièce que je raconte. Donc, si on me pose une question, parce que des fois, les gens posent des questions, hein, parce que le conte, c'est un art populaire un peu... par moment informel, c'est que donc les gens réagissent, ça c'est parfait comme ça. Mais si on me pose une question, mettons qu'est-ce qu'il y a à côté de toi, ben normalement je le sais parce que je suis dans cette pièce-là, je suis en train de la raconter. Donc ça me donne personnellement une certaine sécurité, même si des fois c'est des pièces inquiétantes, vous devinerez.
Mais oui, on va en parler dans un instant. Mais est-ce que des fois, par exemple, quand on écrit, enfin je présume, je sais pas, je n'en fais pas de compte. Moi je me contente de les écouter. Et des apprécier. Mais quand vous racontez une histoire, est-ce que parfois vous avez écrit vous avez écrit l'histoire, vous espérez une certaine réaction à un moment, et puis qu'une autre réaction se fait dans le public. Est-ce que ça vous est déjà arrivé?
Oui, c'est déjà arrivé. C'est en même temps, on est toujours. C'est comme je dis, c'est un moment de partage. Hein. Donc, le partage implique la surprise.
Oui, c'est ça.
L'important, c'est de rester dans l'instant. C'est ce que j'essaie de faire. On n'y parvient pas toujours, mais quand on est vraiment dans l'instant, puis que c'est pas qu'est-ce qu'on pensait qui se passe, des fois, c'est juste un mot. Hein. Des fois, moi, j'ai des expressions, je viens des cantons de l'Est, puis j'ai des expressions, des fois, qui peuvent... donner d'autres images à des gens. Des fois, la réaction est différente, mais on finit par se comprendre, toujours.
Et alors, moi, en tant que Française, alors, n'y pensais même pas.
Ah, mais au contraire, il y aurait justement d'autres réactions. Ça nourrirait.
On se retrouve avec des différences d'idées, des fois. Qu'est-ce que je voulais dire? Vous allez donc nous parler, nous faire peur avec Halloween au musée... C'est le 31, c'est ça, au musée Pointe-à-Calière, les contes du caveau.
Exact. Fraîchement déterré pour vous.
Qu'est-ce qui vous incite à... est-ce que vous vous êtes rendu... Enfin, qu'est-ce qui vous incite à faire des contes qui font peur? Vous avez fait des tas de contes différents, mais les contes qui font peur, c'est plus votre trip à vous? Vous aimez ça?
Mais j'ai eu un appel, on pourrait dire ça comme ça. En fait, il y a une grosse partie de toute cette histoire-là, de cet imaginaire-là de peur, qui tourne autour d'une maison hantée.
D'accord.
Donc, qui prend même origine, je vous dirais, à Trois-Pistoles, parce que c'est là que j'ai dormi dans une maison hantée et que j'en suis revenu transformé.
Vous avez dormi dans une maison vraiment, vraiment hantée?
Oui.
Vous avez vécu cette expérience?
Tout à fait. À Pointe-à-la-Loupe, c'est un peu à l'ouest de Trois-Pistoles, il y a une maison réputée hantée qui a été abandonnée. Et j'ai dans mon adolescence, j'ai été dormir dedans. Et j'ai eu la chance l'année passée dans un autre festival de contes de compter à côté de la maison hantée. Et là, ça a confirmé mes soupçons sur ce qui s'était passé cette nuit-là. L'année passée, Stéphanie Beneteau, qui est la directrice du Festival interculturel du Conte de Montréal, elle m'a entendu conter une histoire de peur sur le bord du feu. Elle m'a dit, puis en plus, c'était très drôle parce que c'était à côté de la microbrasserie Le Caveau. Donc,
ça tombait bien.
Oui, exactement. Donc, elle m'a dit, ben là, tu pourrais venir raconter des contes du Caveau au festival l'année prochaine. Puis là, elle m'a invité en plus dans la Pointe-à-Calière, dans la crypte de la Pointe-à-Calière, parce que c'est vraiment l'environnement idéal pour aller écouter des contes du Caveau.
C'est ça.
Donc, voilà. Donc, comme je dis, il y a la fiction et la réalité. Donc, je suis vraiment allé dormir dans une maison hantée et ça m'a vraiment inspiré une histoire que je raconte dans
Vous avez eu de la chance que ça vous ait inspiré une histoire plutôt que de vous mettre en terreur et de ne plus oser.
Oui, de me faire expirer complètement. Oui, non, c'est ça, j'ai eu de la chance.
Vous en êtes bien sorti. Les fantômes vous ont aimé.
Mais je pense que oui. En fait, j'en ai ramené quelques-uns.
Alors, en parlant de ce que vous allez faire au musée de Pointe-à-Calière, est-ce qu'on peut vous demander de nous faire un court conte, rien que pour nous, pour mon plaisir personnel aussi, bien évidemment?
Oui, ben en fait, j'ai quelques petites histoires, vous me direz quand arrêter, mais c'est des petits faits de mon coin.
Alors, allez-y, racontez.
D'accord, mais là d'où je viens, dans mon coin, les ventes de maisons vont bien. Je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, l'immobilier partout au Québec depuis la pandémie. Hein,
oui.
Voilà, les prix, c'est hors prix. Mais nous, ce qui nous fascine ici, dans mon coin, c'est que c'est pas tant les prix exorbitants que les maisons atteignent, mais que toutes les maisons se vendent. Ce que je veux dire, c'est qu'il y avait une maison, nous, qu'on ne pensait jamais qu'elle se vendrait, c'est la maison qui était réputée démembreuse. C'est une maison où le propriétaire, nécessairement, dans l'année qui suivait, finissait démembré. Nous, on ne pensait jamais que cette maison-là tournerait sur le marché, mais elle a été vendue. Elle a été vendue, mais Arlette, si vous voulez revenir en campagne, il n'y a pas de problème parce que bientôt, la maison va revenir sur le marché d'ici un an. Je dis ça, je dis rien. Hein. Là, je viens dans mon coin, il y a un adolescent qui manque d'air. Il suffoque, mais il comprend trop tard. Qu'est-ce qu'est l'image classique du fantôme? Parce que l'image classique du fantôme, ça vient de nombreuses victimes asphyxiées en essayant de plier un drap contour. Je dis ça. Moi, je dis rien. Hein. Là où je viens, dans mon coin, il y a une grand-mère qui garde son petit-fils. Ils ont leur rituel quotidien. Après le repas, elle s'installe devant la télévision pour son émission. Et lui s'installe à côté d'elle. Mais à un moment donné, pendant l'émission, elle fait toujours la même chose. Elle va fumer sa cigarette. Mais rassurez-vous, hein, elle allume la hotte du poêle pour son émission. Après ça, quand elle vient s'asseoir, la grand-mère, pas si vieille que ça, à côté de son enfant sur le divan, elle a un high de nicotine et parfumée au goudron. Mais lui, ce qui la trouble, en fait, ce qui trouble l'enfant, c'est quand elle respire. Lui, il entend la mort rire.
Wow!
Et ça, je dis rien. C'est des petites histoires que je fais entre les plus longues histoires pour vous donner un petit avant-goût. Là.
Ça fait peur. Je ne raconterai pas ça à mon petit-fils.
Non, mais, en fait, c'est pour ça qu'on demande 16 ans et plus. Hein, c'est sur.
Non, mais c'est formidable parce que c'est juste cette façon de nous mettre en train et de nous raconter quelque chose qui à la fois va nous faire rire jaune un peu, selon l'expression consacrée, mais oui, qu'on a envie de continuer à entendre, quoi, parce que c'est drôle. J'adore l'expression, je dis ça, je dis rien.
Il y a
tellement de sous-entendus là-dedans que ça...
Effectivement, ben, c'est ça. Là, évidemment, je suis nerveux en entrevue, on se voit pas, on n'est pas en contact.
Oui.
Et mon but, c'est vraiment de laisser déposer ça, les histoires de part, parce que c'est un répertoire qui demande une certaine lenteur, quand même.
Oui.
Puis moi, vous l'avez remarqué, je suis un conteur assez... avec un rythme rapide.
Oui, 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 oui.
Donc, c'est vraiment tout un territoire que j'investis. Puis je t'avouerais que c'est vraiment... j'embarque là-dedans avec un grand plaisir, mais c'est quand même quelque chose que je vais travailler au cours des années parce que c'est un répertoire qui est riche pour moi et qui est très diversifié. Donc, même dans les films d'horreur, il y a des films d'horreur où on a vraiment peur, là, c'est que tu sens un malaise des esprits, tu te sens pas bien. Il y a des films de peur où, à un moment donné, tu te mets à rire.
Mais c'est nerveux aussi.
C'est nerveux aussi, effectivement. Alors, c'est ça. Mais là, c'est à moi, après ça, gérer ma foule pour qu'on puisse avoir toute la panoplie des émotions, c'est-à-dire peur vraiment par moment, qu'on rit tous ensemble. Puis, c'est ça qu'il y a des choses étranges ou des choses qui nous font réfléchir à la chance qu'on a d'être en vie, en fait.
Ah ben oui, oui. C'est quelque chose à quel on devrait réfléchir, non pas pendant le festival, mais chaque jour quand on se lève, de comprendre que la vie est là.
Oui.
Et si on passe la journée, c'est merci. Merci d'avoir passé cette journée. Voilà. Merci pour ça, en tout cas, c'est génial.
Avec plaisir. Merci de l'invitation.
C'est pas fini. On continue. Je disais merci pour l'histoire. On continue l'entrevue. C'est pas fini. Parlons un petit peu de la Ligue mondiale de la menterie. J'adore ce titre. C'est beau.
Oui, ben ça, c'est mon ami Steven Plab qui a lancé ce projet-là, Steven Larivière-Baudouin. Le but, c'était vraiment, on était pris pendant la pandémie comme artiste de la performance et on voulait rejoindre des gens, puis on voulait avoir ce moment de communion ensemble entre artistes. Puis on se demandait comment faire tout en respectant les règles sanitaires.
Oui.
Et là, on est arrivé avec cette formule-là. Il y avait déjà des concours de menterie en présentiel. Et là, Steven a eu l'idée de faire des ligues qui ressemblent à un tournoi de balles données, de balles molles, si vous voulez. Donc, c'est notre thématique. Les joueurs reçoivent des cartes comme des cartes de baseball, mais avec leur portrait dessus. Et moi, c'est animateur, en fait. Moi, avec Marc-André Fortin, on était deux animateurs qui faisons des commentaires sur les vidéos qui nous étaient envoyées des compteurs menteurs. puis on analysait leur taux de crédibilité. Moi, j'étais vraiment vu que j'étais art visuel, j'analysais le décor beaucoup. Donc, c'était ma grande passion. Donc, ça nous a amené à découvrir des compteurs à la fois à travers le Québec et aussi outre-frontière, parce qu'il y avait vraiment des gens, il y avait la Ligue Outre-mer, où il y avait des gens d'Italie, de France, donc qui communiquaient avec nous. Là. Fait que c'était vraiment particulier là, d'avoir un Italien en pleine pandémie là, qui se trouve un studio, parce que c'était vraiment, il y a eu des vagues à différents moments. Là, puis, donc, on est arrivé vraiment à quelque chose d'amusant, parce qu'on s'est vraiment bien amusé, puis les gens, le public a embarqué. Donc,
ça, c'est formidable. Voilà.
Mais je pense que oui, quand on arrive aux deux, à la fois à rejoindre le public et à s'amuser.
C'est ça la créativité. Comme quoi, quand on est coincé quelque part, on cherche à faire autre chose. C'est le côté formidable, voilà, de tout ça. Mais si tant est qu'il y en ait un.
oui, c'est ça. Mais il y a des belles choses qui vont sortir quand même, malgré tout, de ces moments de confinement. De ces moments de réflexion on a réévalué nos pratiques. Ils disaient tout le temps se réinventer. Moi, j'ai décidé de pas trop me réinventer, mais de réévaluer qu'est-ce que je faisais, ce que je fais, en fait. De me demander pourquoi je le fais. Puis là, on a recommencé à avoir du présentiel. Récemment, j'étais dans un beau festival, Les jours sont comptés, en Estrie. Donc, on redécouvre cette espèce d'adrénaline de voir des gens. Il faut la gérer parce que ça fait 2 ans qu'on n'a plus
avec
des personnes. Donc, c'est très plaisant. On le savoure pour ce que c'est réellement, c'est-à-dire, enfin, on se retrouve.
Ah oui, oui. Puis, quel bonheur. Quel bonheur. Mais en même temps, c'est bien aussi d'avoir pu passer par Internet, parce que ça permet de toucher plus de monde, peut-être des gens qui ne se seraient pas déplacés.
Oui,
aussi.
Oui,
ça permet une plus grande connaissance de votre travail.
Puis ça permet de passer les frontières aussi. J'aurais pas été faire un compte de 10 minutes en Italie.
Oui,
mais
c'est ça.
Recevoir un compte d'un Italien de 10 minutes. Donc, ça, c'est vraiment intéressant, effectivement. Ça nous rapproche.
Et alors, c'est quoi cette histoire de série de comptes en format GIF là, et fait un direct de 4 heures sur Facebook? Qu'est-ce que c'est?
C'est la Maison des Arts de la Parole qui avait lancé cette idée-là l'année passée. Leur édition avait été annulée en présentiel.
Oui.
Donc, ils l'ont fait comme ça, en virtuel. Et je ne sais pas s'ils diraient que c'est une erreur, mais en fait, ils m'ont remis les clés de la Maison des Arts de la Parole.
Ce qu'ils recommenceront peut-être jamais.
Mais après, ils l'ont pas fait cette année, je confirme. Mais ça m'a permis, en fait, je me suis dit, j'avais fait justement différents petits comptes courts à différents... sur différentes plateformes. Là, je me suis dit, je vais faire un Facebook Live mais le plus long possible. J'essaie de voir, tu sais, mon répertoire, est-ce que je suis capable de faire 4 heures de compte. Alors là, je me suis lancé là-dedans, puis dans l'après-midi, pour chauffer un peu la foule, mais là, je mettais des gifs.
Oui.
Qui représentait une des histoires qui serait racontée le soir. Et les gens, s'ils trouvaient l'histoire, même il y a une histoire qui a été créée complètement en GIF animé, c'est-à-dire que les gens rajoutaient, oui. Puis on a créé une histoire comme ça. Comme quoi, les histoires peuvent naître même de l'environnement numérique.
Et je trouve ça formidable parce que justement, on n'arrête pas enfin, moi, je l'entendais dire en tout cas que si on veut faire passer quelque chose sur YouTube, sur Facebook, etc., il faut faire court. Et là, je vois 4 heures, je dis ah là, bravo!
c'était une odyssée pour moi, en fait, parce que, en fait, t'sais, sur 4 heures, on s'entend qu'il y a différents momentum.
Oui.
Alors, j'ai vraiment commencé par des comptes qui étaient géolocalisés, donc des comptes qui se passaient à Trois-Pistoles, qui se passaient à Montréal, qui se passaient à Coansville, d'où je suis natif, et à Waterloo, parce que je suis rendu un compteur de Waterloo. Donc,
j'ai vu ça.
J'essaie de voir, c'est de placer différents endroits pour aussi appeler les gens qui viennent de ces territoires-là à s'intéresser à ce qui se passait, parce que c'est pas tout de faire 4 heures. Encore, faut être accompagné.
Oui, c'est ça. On peut faire 4 heures tout seul devant son écran.
Mais les gens réagissaient. Je recevais en même temps sur mon téléphone des commentaires que j'essaie d'intégrer tout en faisant la performance, parce qu'on peut parler de performance à ce stade-là. Et puis là, j'avais planifié différents lieux avec des lumières différentes pour qu'on aille tranquillement, lentement, mais sûrement vers une série de contes déjantés de plus en plus vers l'horreur. Fait que déjà, il y avait ça qui m'habitait. Fait qu'il y avait des contes de peur plus tard en soirée quand je présumais que les enfants en bas de 16 ans seraient couchés.
Alors, avant qu'on arrive à la fin de cette entrevue, nous reste une ou deux minutes. Je voulais dire un petit mot sur l'ouvrage collectif qui avait été publié en 2018. C'est pas si vieux que ça. Nouvelle vague.
Oui, Nouvelle vague. Ça a été vraiment un grand plaisir pour moi d'être édité à Planète Rebelle, parce que c'est une maison d'édition de contes que j'adore, qui est présent dans tous les festivals de contes qui participent, qui est vraiment impliqué dans le milieu. Puis ça a été, c'est Céline Jantet qui a pris la direction. Donc, j'étais sous la direction de Céline Jantet. Et puis, j'ai pu amener des contes qui se sont transformés tranquillement. Donc, qui ont une vie sur le CD. J'ai même été accompagné par Alexandre Bellegarde, qui est un musicien de jazz que j'adore. Donc, j'ai pu déposer des histoires. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de mon matériel, si vous voulez, de mes bricolages oraux, qui sont que dans ma tête.
D'accord.
Ou en oralité. Donc, c'est le seul livre où mes histoires sont déposées. Dans la soirée du 31, il y a de nouvelles histoires qui n'ont jamais été contées, qui vont être racontées, mais des histoires vraies, évidemment.
Alors,
mais voilà, c'est une occasion. Là,
vous voulez rencontrer Paul Bradley, du moins l'écouter, avoir peur avec lui, eh bien, rendez-vous au musée Pointe-à-Calière le 31. Et puis après, ben, on peut le voir sur votre site ou sur votre Facebook. Voilà, pour continuer à vous suivre. En tout cas, vous, ce n'est pas votre première visite ici au Festival du Conte. Donc, merci beaucoup pour cette entrevue. Ça a été un plaisir de vous rencontrer et d'en discuter avec vous.
Un grand plaisir. Je suis bien amusé.
Donc, à bientôt et bonne continuation à vous.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Bye.
Plus les jours avancent, plus je me dis pourquoi se plaindre. Moi j'ai des plans pour l'avenir et ce n'est pas devenir prince. Je sais déjà que c'est pas l'argent qui fera mon bonheur. Le bonheur je le porte sur une main et sur l'autre c'est le cœur. Ben oui, cette vision positive m'appuie, me suit. J'entends les nuages rire même s'ils sont gris. Pour moi le vacarme chuchote sans faire de bruit. Et les tempêtes s'écartent de ma vie. De cette façon j'avance, lentement mais sûrement. Je n'oublie pas que j'ai cette chance de contempler les saisons. Dans mon quartier je déambule depuis plus de 30 ans. Tu m'as peut-être vu petit garçon, la tête pleine d'ambition. Traversant le labyrinthe à la conquête de bonnes valeurs. Moi je n'avais pas de grande maison, plutôt 3 frères et une sœur. Papa, maman, beaucoup d'imagination. Et les couleurs de l'automne pour me faire sentir vivant. Yeah. Parce qu'il y a l'automne, parce qu'il y a tous ces chefs-d'œuvre à admirer. D'abord d'être BDI artiste ou un grand peintre. Si je te parlais de monnaie, il n'était pas question de dollars. Je dessinais à profusion, mes premiers traits de passion, souvent des schtroumpfs. Bref, toujours en mode création. Dans mes cahiers d'école, quelques griffonnages ici et là. Voilà que mon art éclaté s'exprime, part en voyage. La mode c'était les mangas et on écrivait en tag. Notre plaisir était de reproduire les plus belles images. Au secondaire, les souvenirs contiennent moins de pages. C'est vrai que j'étais un peu plus distrait, distant, je me faisais discret. Un jeune de peu de mots, c'est ce qu'ils vous diront depuis le temps. A émergé le papillon, j'ai mis sur papier la beauté du monde. En cherchant des pierres précieuses de fond en comble. Et je me suis émerveillé devant cette feuille qui tombe. Plutôt banal, pour moi vivre et tout voir, ce n'est pas banal. Parce qu'il y a l'automne, parce qu'il y a tous ces chefs-d'œuvre à admirer. Motivation. Si tu remets le ton en perspective, tu réviseras ta chanson. C'est pour ça que je suis toujours plein d'entrain, que de la bonne humeur. Comme si le printemps était en moi, pressé d'offrir des fleurs. Les mélodies résonnent, même si je n'ai pas eu d'orchestre. La bonne vieille guitare m'a donné le son. Cette embellie à sa façon, fallait du cran pour créer, écrire et partager le tout à l'écran. Qui l'aurait cru? Mes passe-temps sont devenus profession. Profitez-en, le test est réussi, enfin. Grâce à la vision d'un verre à moitié plein, du positif dans mes tympans. Faire ce qui me plaît sans me plaindre, c'était ça le plan. Yeah. Faire ce qui me plaît sans me plaindre, c'était ça le plan. Et je me sens privilégié, parce que je peux admirer l'automne, l'hiver, le printemps, l'été. Et on continue de travailler fort, man. On lâche pas.
Alors vous venez d'entendre les mots qui nous chantent parce qu'il y a l'automne. Et puis restez avec nous parce qu'on devient plus intelligent avec Eva Maizen avec sa chronique des stupidités dans un instant. A tout de suite.
Écoutez les Faramineux avec Arlette Fara.
C'est bien comment ça commence. D'abord, il fait la gueule pendant des heures. Des heures, des heures. Moi, je lui fais la gueule pendant des heures. Des heures, des heures. Faut qu'on apprenne à s'aimer autrement. Je veux m'expliquer avec elle, c'est jamais le bon moment. On n'est plus ennemis qu'amants, c'est ce qu'on s'est dit fréquemment. Je veux m'exiler avec elle, devenir son médicament. La soulager pendant des heures, des heures, des heures. Isolée comme des naufragés pendant des heures. Des heures, des heures. Faut qu'on apprenne à s'aimer autrement.
S'aimer autrement, s'aimer autrement, s'aimer autrement.
Alors, on vient d'entendre Deluxe qui nous chantait « Des heures ». Quelle superbe chanson. Mais maintenant, nous allons nous rendre intelligentes avec Eva Ameisen. Bonjour Eva.
Bonjour Arlette.
Alors, comme je l'expliquais en début d'émission, ça s'appelle la chronique des stupidités. Je dis ça pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore et qui arriveraient. Mais
c'est encore possible.
Mais en même temps, c'est toujours très intelligemment fait et on apprend plein de choses. Donc, je te laisse la parole. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui, Eva ?
Eh bien, de la chronique des stupidités, j'ai la réponse qui a la question. Aujourd'hui, on va se concentrer sur une réponse tellement fine qu'on se dit qu'il existe peut-être quelqu'un, quelque part, qui se pose la question qui va avec, mais on peut sincèrement en douter.
J'ai hâte.
Dans des chroniques anciennes, notre stupidité s'était déjà penchée sur les homonymies, les antonymies, l'étymologie, bref. Nous avions évoqué beaucoup de mots savants pour nous donner l'air intelligent et survoler avec délicatesse et subtilité la langue française. Aujourd'hui, nous allons affronter des aspects plus basiques. Et donc, Arlette, je vais te demander quelle est la différence entre être et avoir.
C'est pas du tout la même chose.
Voilà, c'est très simple ou très compliqué et je vois bien que tu sèches, donc comme à chaque fois...
Non, je ne sèche pas, mais ma réponse aurait été trop longue et j'aurais peut-être gâché ta chronique.
Tu es gentille, Arlette, et tu me permets de dégainer ma définition larousse du verbe être qui est avoir une réalité et la définition du verbe avoir qui est de bénéficier de quelque chose. Alors, est-ce qu'on peut mélanger genre avoir été ou être eu? Alors là, est la réponse à la question dont tout le monde se fiche éperdument.
Beau questionnement.
Alors, non mais on va dans la stupidité jusqu'au bout. Comme chacun sait, ou chacun devrait le savoir, ou chacun l'a un jour lointain su, avoir et être sont des verbes. Mais pas seulement, ce sont aussi, comme tu le sais,
Des
verbes auxiliaires.
Ah, des verbes auxiliaires. Oh mon Dieu.
Ça nous rajeunit pas. Hein.
moi je m'excuse ma petite madame, mais il y a vraiment très très longtemps que j'ai quitté l'école. Alors là, j'étais plus restée avec ça. Et comme j'ai plus d'enfants à élever,
Alors que je voulais que tu me donnes la définition d'un verbe auxiliaire. Pas un exemple, une définition.
Je te laisse faire ça avec grâce.
Je m'en doutais. Donc, un auxiliaire est un verbe qui est réduit à la fonction grammaticale de former les temps composés des verbes. C'est alors extrêmement simple. Quand on dit « j'ai 5 ans », « avoir » est un simple verbe. Lorsqu'on dit « j'ai eu 5 ans », « avoir » devient aussi un verbe auxiliaire. Et si on dit « je me suis fait avoir », c'est d'une part qu'on agrandit et d'autre part que « faire » est un verbe semi-auxiliaire, ce serait trop simple, et « avoir » un simple verbe. Bon, alors tout d'abord, « je suis allé chercher », « aller » étant un verbe semi-auxiliaire, la définition dans le Larousse du mot « verbe ». Et je te mets au défi de me la donner.
Alors là, je ne l'ai jamais regardé.
Bon, c'est dommage parce que c'est très simple. Tu aurais dû t'atteler à cette tâche parce que je suis prête à te donner 100 000 $ si tu me la donnes immédiatement sans te précipiter sur Google ou à l'ancienne dans un livre.
Ce qui veut dire qu'elle est totalement introuvable pour moi. D'accord, je te remercie de ta confiance.
Mais... c'était que pas que pour toi, parce que tu vois, est-ce que tu renonces à tes 100 000 $ et à l'argent facilement gagné?
Alors, comme dirait Jean-Pierre Foucault dans le jeu « Veux-tu gagner des millions ?» Je renonce.
Eh bien, voilà la définition donc, du mot « verbe hein, », qui est bien simple. C'est une catégorie grammaticale qui regroupe l'ensemble des formes composées d'une base lexicale et d'un certain nombre d'affixes pertinents variant en nombre, en personne, en temps, dont la fonction syntaxique est de structurer les termes de l'énoncé et dont le rôle sémantique est de décrire les actions, les états, les modifications relatives aux éléments auxquels se réfèrent les non-sujets.
Bon, je suis déjà fatiguée.
Mais je me doutais que tu trouvais ça, comme moi, beaucoup trop simple comme définition.
C'est d'une évidence.
C'est ça. C'est vraiment nous prendre pour des imbéciles. Et je me demandais si on ne pouvait pas trouver une définition un peu plus sophistiquée et complexe, du genre le verbe exprime une action ou un état dans le temps, passé, présent ou futur.
Voilà, quelque chose comme ça.
C'est ça. Mais cette définition est quelque peu difficile à comprendre, quand même, celle qu'on vient de donner toutes les deux.
Oui.
Et pourrait nous faire passer. Faire étant un verbe semi-auxiliaire, pour des prétentieuses. Comme nous ne le sommes pas, nous allons dire que le Larousse a eu beau jeu de donner cette définition simplissime que je ne te ferai pas l'injure de lire une deuxième fois.
Oh non, s'il te plaît.
Sauf si tu me supplies expressément.
Non, je te supplie l'inverse. Surtout, ne le répète pas.
Alors, le français est finalement extrêmement simple. Il faut dire « j'ai 20 ans », même quand on ne les a pas.
Oui.
Mais si je te dis « j'ai content », tu vas me répondre que je cause mal le français. Et pourtant, ça ne m'empêche pas d'exprimer mon bonheur et toi de comprendre ce que je veux dire.
Tout à fait.
Mais les langues sont ainsi faites qu'il y a des règles. Oui, il y a
Et puis surtout dans la langue française. Hein. Bonjour pour ceux qui l'apprennent. Bravo à vous.
Donc il y a des règles et non il est des règles, quoique on peut dire aussi qu'il est des règles qui ont plus d'importance que d'autres, si on est un peu agacé par la lourdeur grammaticale, qu'il est même des règles dont on se fout.
Complètement.
Alors, la beauté de la langue française, sa beauté, sa subtilité, voire sa délicatesse, on peut donc employer « être » et « avoir » tout seul, genre « je pense donc je suis » ou « j'ai une chroniqueuse exceptionnelle
». Vous m'avez ôté la phrase de la bouche, madame.
Mais oui, et qui est grammaticalement juste, mais peut-être pas tout à fait vrai. Enfin, ce sera à toi de me le dire. Mais
si.
« Être » et « avoir » perdent leur signification propre quand ils sont suivis d'un autre verbe. Ils deviennent alors des auxiliaires de temps et permettent de jouer à la conjugaison. Si je te demande, par exemple, un passé composé avec le verbe « manger », tu me diras...
« J'ai mangé ».
Bien, spontanément, tu te serviras de l'auxiliaire « avoir ». Parce que si tu me dis
« je suis mangé », ça n'a pas le même sens.
Ça va commencer à m'inquiéter un peu beaucoup d'apprendre que non seulement tu as été mangé, mais surtout que tu es encore capable de me parler. Et si je te demande un auxiliaire avec le verbe « sortir », tu me diras...
Je suis sorti.
Voilà, c'est ça. D'abord parce que tu adores ça, sortir
oui.
au théâtre, au concert...
C'est vrai enfin, aussi.
Sortir, quoi. Et puis aussi parce que si tu me dis « j'ai sorti », je te dirais soit que tu es une petite
j'ai
fille qui ne maîtrise pas...
Les poubelles. Ah si, j'ai sorti
ouais.
les poubelles.
C'est vrai, mais j'attendrais aussi pour te demander qui tu as sorti, espérant très fort que ce n'est pas ta chroniqueuse des stupidités parce qu'elle a dépassé les bornes des limites.
Pas encore, ma patience est plus longue que ça.
ouf. Mais il n'y a pas que moi qui suis gonflée. Le verbe « avoir » l'est aussi à sa manière, car il est capable d'être non seulement un verbe, mais en plus son propre auxiliaire. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Voilà, on dit « j'ai eu ».
Exact.
Et si ça, c'est pas monopoliser la grammaire, on se demande bien ce qui peut l'être.
Ça, c'est prétentieux.
Mais, oui, le verbe « avoir », il exagère un peu. Mais... comme Monsieur Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir, je m'aperçois qu'on fait volontiers de la grammaire à l'insu de son plein gré. Il se dit souvent qu'on ne peut pas être et avoir été, mais peut-on être et avoir ? Alors, à défaut de donner une réponse, je me pose une question, Arlette. Toi qui es la plus belle, oui, toi qui as tant de talent, comment fais-tu pour être et avoir à la fois ?
Je reste assise sur une chaise parce que je ne peux plus me lever.
À cause des chevilles qui gonflent.
C'est ça.
Un jour peut-être, donc si nous sommes sages, j'espère que tu nous donneras la recette. Alors, avoir ou ne pas avoir, telle est la question philosophique que nous a un jour posée Hamlet. Et je finirai ma chronique avec la grande tristesse de vous quitter déjà, en ayant quand même, sinon répondu avec toute la stupidité qui me caractérise à une question qui n'intéresse personne sur les verbes être et avoir, au moins passer le temps à faire avancer la grammaire des stupidités.
Alors musique, on en parle tout de suite après. D'entendre Alexandre Desilets qui nous chantait En mille morceaux. En mille morceaux, c'est un peu l'état de mon cerveau et je n'ose dire que j'aimerais rentrer dans le tien parce que j'aurais bien trop peur de m'y perdre, Eva. Ah.
Oui, bah je comprends bien. Avec ton premier invité déjà, où c'était un peu inquiétant.
Ah, tu as écouté notre conteur Paul Bradley ?
Eh oui.
Formidable.
Eh oui. Ah, c'est extraordinaire, oui. Mais ça fait peur. Hein.
Oui, ça fait peur. Ça fait peur. Eh bien, je pensais me rassurer avec toi. Laisse-moi te dire que ça n'a pas changé mon état d'esprit.
Me voilà désolée.
Qu'est-ce qui t'a pris de rentrer dans l'être et l'avoir Alors, au début de cette émission, je ne sais pas à quel moment tu nous as pris, mais au début de cette émission, j'ai dit, vous allez entendre la chronique des stupidités. d'Eva Amazin, qui au contraire de son titre, nous rend tellement plus intelligents après. Or, oui. Là, je ne me sens pas plus
mensonge.
Intelligente, je me sens embrouillée.
Écoute, tu sais maintenant, tu te souviens, je t'ai rafraîchi la mémoire du temps très, très ancien où tu étais à l'école entre le verbe « être » et « avoir ». Parce que me dis « avoir été »,« être eu », enfin bref, tout ça m'a paru totalement stupide, donc je n'ai pas pu m'empêcher.
Tu sais quoi, ça m'a fatiguée et ça m'a d'autant plus donné de, comment dirais-je...
Mot de tête.
Non, pas de mot de tête, mais d'admiration. Pour tous les gens qui viennent de partout ici au Québec et qui apprennent la langue française quand ils ne la savent pas du tout, alors que c'est vrai que c'est tellement plus facile d'apprendre l'anglais. J'adore la langue française et je suis très contente de l'entendre dans les théâtres et ailleurs, et ça il n'y a pas photo, mais en même temps je me rends compte du travail que ça demande et comme je le dis souvent, je suis bien contente d'être née de l'autre côté.
Oui, c'est sûr que ça
parce que ça m'évite d'avoir à apprendre tout ça.
Et à savoir ce que c'est qu'un auxiliaire.
Et à savoir ce que c'est qu'un verbe auxiliaire aussi. Oui, mais tout le monde ne parle pas avec Eva, il n'y a que moi, je ne sais pas pourquoi. Il y a des moments de folie qui me prennent et je ne sais pas pourquoi, j'en sais rien. Il doit y avoir un certain pourcentage d'incompréhension qui doit se faire dans cette émission. Et mon choix s'est porté sur toi. Pour ça.
Ça va être la chronique de l'incompréhension. Ça va être plutôt la chronique inaudible.
Ah non, pas inaudible, parce qu'on comprend bien ce que tu dis dans le format des mots. Après,
c'est ça. Après,
c'est dans le sens.
Pourquoi je le dis ? Mais en même temps, sachant que c'était compliqué, j'ai quand même glissé subtilement toi qui es la plus belle et toi qui as tant de talent. Quand même,
Alors ça c'était heureusement que tu es une fille, que tu me dis ça, parce que sinon j'aurais dit non mais attends, tu te moques de moi ? Mais c'est pas grave, je supporte.
Ça s'appelle de la flagornerie.
C'était pour nous apprendre un nouveau mot, flagornerie, pour ceux qui ne connaissent pas encore. Eh bien, allez chercher sur le dictionnaire, vous verrez, Eva c'est comme ça, elle nous donne du boulot pour le dictionnaire. En fait... t'es payé par la rousse ?
C'est ça. Mais quand j'ai lu la définition du verbe, je la trouvais tellement... Enfin, je n'ai rien compris.
Ah, ben ça me rassure, parce que moi non plus.
Et je me disais, comment est-ce qu'on peut faire pour rendre tellement compliqué quelque chose qui, finalement, est relativement simple ? Je me suis dit, il doit y avoir un mec chez la rousse, un mec ou une nana, quelqu'un, qui doit être un peu dans la définition des stupidités, tu sais, du genre, qu'est-ce que je peux mettre pour rendre beaucoup plus compliqué ce qui paraît très simple. C'est invraisemblable.
Je ne suis pas sûre qu'ils y mettent autant d'humour.
Tu crois ?
Je ne sais pas, comme ça a l'air d'être fait, là, quand tu nous l'as lu. Et surtout, je ne veux pas que tu recommences, t'en supplie. Mais quand tu l'as lu, j'étais déjà fatiguée.
Ah, mais moi, la lire...
Après les deux premiers mots.
Je ne comprends qu'un mot sur deux, de toute façon, de ce qui est écrit. Il faudrait se référer à d'autres... Ou alors, c'est pour te rendre captif. C'est-à-dire que tu vas chercher une autre définition parce qu'il y a tellement de mots que tu ne comprends pas et que tu ne connais pas que tu es obligé de... Alors, il y a un petit clown qui
tu sais
travaille chez Larousse. Et,
tu risquais l'accident. Tu pouvais aussi, si ça avait été un tantinet plus long, m'endormir au micro, ce qui aurait été très défavorable à mon statut d'animatrice de radio.
Oui, mais imagine pire encore qu'en la lisant, je m'endorme, parce que ça, tu m'aurais perdu sans comprendre pourquoi.
Un traître mot et sans avoir la suite. Il est vrai, ça aurait été encore pire. Donc, pour l'instant, ni l'une ni l'autre, nous nous sommes endormis. Mais en tout cas, je te remercie beaucoup. Je ne sais pas ce que tu vas nous donner le mois prochain.
Ah, écoute,
j'en ai déjà peur par avance, mais en même temps, je suis un peu maso, donc je te fais confiance. Et je me dis, bon, on va quand même apprendre quelque chose de toute façon. Quand
Dieu
même.
Va, quoi. On verra bien. Hein.
Parce que là, on a déjà appris de surtout jamais ouvrir le dictionnaire au mot verbe. Ne va jamais chercher ça, parce que là, ça te casse le temps d'étudier. Donc, Eva, merci pour tout.
Et bah, puis, avec grand plaisir.
On se voit dans un mois, bientôt.
À bientôt.
Avoir et être. Allez, bye bye.
Bye bye.
Alors, on vient d'entendre Calypsa Rose qui nous chantait « Back to Africa ». Ça nous donnait envie de danser pour vous souhaiter une excellente soirée. Donc, pour ceux qui ne m'ont pas encore écrit ou qui auraient envie de le faire, je redonne mon mail. Donc, c'est farahharlette@gmail.com pour m'écrire et si vous avez des demandes à me faire. On remercie beaucoup Eva Meizen pour sa chronique intelligente, je vais l'appeler comme ça maintenant et non plus sa chronique des stupidités. Et le conteur Paul Bradley, n'oubliez pas, pour l'Halloween, allez au musée Pointe-à-Calière, vous n'allez certainement pas le regretter. Merci Maurice Bolduc pour les musiques et pour la technique et bon retour à toi. Et puis à vous, eh bien, mesdames et messieurs, je vous dis à demain, si vous le voulez bien, même heure, même endroit. Au revoir.